Voilà. Donc Flaubert, l'image Sabine Nard, Flaubert, l'image légendaire légendée. Donc c'est à vous.
Merci beaucoup pour cette présentation. Et je tiens également à vous remercier pour m'avoir invité à présenter mon travail dans ce cercle prestigieux. Est-ce que vous avez les fonds? Les querelles de l'image, le thème auquel est consacré ce séminaire Flaubert, aborde une problématique qui est au cœur de l'œuvre flaubertienne. Cette querelle, me semble-t-il, se présente aussi comme une querelle des anciens et des modernes, une querelle entre des auteurs qui applaudissent l'apparition de nouveaux médias visuels et des auteurs qui s'y opposent pour des différentes raisons. Une querelle qui touche également à la relation entre les arts et tout particulièrement entre les médias textuels et les médias visuels. S'il est vrai que le statut des arts et la compétition qui s'opère entre eux sont un sujet de querelle depuis l'Antiquité, pensons à la maxime horacienne ut pictura poesis, avec les nouveaux médias, l'accent de la discussion se déplace. Ainsi, le critique autrichien Oskar Waltzel introduit-il au début du XXe siècle la notion de éclaircissement réciproque entre les arts pour décrire ce que nous appelons aujourd'hui l'intermédialité, la coprésence de deux ou plusieurs médias, ainsi que la relation entre eux et l'effet de cette influence réciproque. Il s'agit moins de décrire la rivalité des arts et les avantages d'un art sur un autre que d'alléguer les différents moyens de représentation de la mimésis et de décrire des points de contact entre différents médias. Flaubert, l'inventeur du roman moderne, est généralement classé du côté des anciens en ce qui concerne son opinion sur les nouveaux médias, par exemple sur la photographie. Pourtant, son approche de cette imagerie, l'intégration chez lui du visuel dans le texte, me semble faire montre d'une grande modernité. Afin d'analyser cette dimension intermédiale chez Flaubert, et plus précisément la relation entre texte et image, il est éclairant de partir de la forme légende, puisque la légende n'est pas seulement un élément central dans son œuvre, mais qu'elle implique également de manière fondamentale un rapport texto-visuel. Avant d'analyser les textes, laissez-moi toutefois préciser les repères théoriques. Les chercheurs ont beaucoup étudié la forme légende et son schéma narratif. Je pense par exemple aux travaux de André Yol, vous trouverez toutes ces références sur l'exemplier. Donc je pense aux travaux de André Yol, Erich Auerbach, Hans-Ulrich Gumbrecht, Alain Bourreau, Hans-Peter Ecker, Claude Millet et Brenda Landardo. En revanche, la dimension texte-image de la légende était jusqu'à présent ignorée ou restait seulement ponctuelle. Pourtant, la polysémie du terme « légende » nous rappelle sa dimension intermédiaire qui oscille entre oralité, littéralité et visualité. De par son étymologie latine, « legenda », ce qui doit être lu, la légende signifie d'abord l'acte de lecture à voix haute. Par extension, le terme fut employé pour le récit même, c'est-à-dire le récit de la vie d'un saint destiné à être lu à l'office de matine. Ensuite, pour le recueil de ce récit, par exemple la légende dorée de Jacques de Voragine. En moyen français, le mot « légende » est employé dans un contexte plus populaire et prend alors le sens de récit merveilleux et populaire. Le dictionnaire étymologique de la langue française de Walter von Wartburg nous donne encore une autre signification. Wartburg situe la première apparition de cette signification au XVIe siècle et déclare que le mot est employé pour décrire une notice explicative qui accompagne un tableau représentant le martyr d'un saint. Cette signification est alors généralisée et se retrouve aujourd'hui dans notre usage courant pour désigner tout texte qui accompagne une image et lui donne un sens. Mais il faut bien noter que cette nouvelle signification se situe d'abord dans un contexte religieux. Le texte de la légende était d'abord visualisé, transmis par le médium d'un tableau, et le tableau a généré, si l'on peut dire, alors de nouveau un texte explicatif sous l'image. Le terme de légende implique ainsi à la fois une réception auditive et lisible et une réception visuelle. pourquoi la légende est-elle tellement significative pour Flaubert? Au XIXe siècle, la légende connaît une véritable renaissance, et cela dans la littérature, la peinture et la musique. Une multitude de textes font alors référence à des légendes de manière directe ou indirecte. Je pense par exemple aux trois versions de la Tentation de Saint-Antoine, aux trois contes qui peuvent se lire comme trois légendes. Bien sûr, cela peut se discuter, mais il y a pour le moins du légendaire dans les deux contes qui ne sont pas désignés comme légendes dans leur titre. Je pense également à des textes de Victor Hugo comme Notre-Dame de Paris, la légende du beau Pécopa, de la belle Boule d'Our, la légende des siècles, ou encore à des textes de Zola comme la légende du petit manteau bleu de l'amour, Madeleine Ferrat ou Le rêve. La liste pourrait être facilement prolongée. C'est dans le contexte du romantisme et de son goût du Moyen-Âge que les romanciers s'intéressent à la littérature et aux arts médiévaux. Leurs textes n'ont pourtant plus la même fonction qu'au Moyen-Âge. Il ne s'agit pas d'écrire des légendes édifiantes. Si nous revenons à Flaubert, il faut nous demander pourquoi il a consacré un bon nombre de textes à des vies de saints. C'est Flaubert lui-même qui s'y réfère, ironiquement, dans une lettre, quand il écrit qu'après Saint-Antoine, Saint-Julien et ensuite Saint-Jean-Baptiste, il ne sortait pas des saints. On pourrait remonter à ses œuvres de jeunesse pour constater que certains sujets liés à la légende occupent Flaubert dès le début. Le thème de la mort, du voyage en enfer, de l'épreuve de force avec le diable, ou encore des motifs relevant du merveilleux, du fantastique, sans oublier son intérêt pour les religions, les questions métaphysiques. J'avance l'hypothèse que Flaubert s'intéresse à la forme légende pour sa dimension intermédiaire. C'est donc l'esthétique de la légende qui est au centre de sa réception. Quand nous pensons à la Tentation de Saint-Antoine, l'œuvre de toute sa vie, nous nous souvenons que c'est un tableau de Bruegel qui a incité Flaubert à écrire ce texte. Puis d'autres images légendaires, comme la gravure de Jacques Caillot, les planches de Georg Friedrich Kreutzer, par exemple, deviennent centrales dans le processus de l'écriture. Dans le cas d'Un cœur simple, c'est un vitrail de l'église Saint-Michel et une image d'Épinal qui incite Félicité à comparer le Saint-Esprit à Loulou. Dans la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, Flaubert établit une relation entre le vitrail à thème légendaire et son texte. Pour Hérodias, il se réfère au tympan de la cathédrale de Rouen, à une représentation de la danse de Salomé faisant partie de la légende de Saint-Jean-Baptiste. Ces exemples nous montrent que la légende traditionnelle du Moyen-Âge se voit d'abord convertie en visualisation, pour diverses raisons que nous laissons de côté ici, et que c'est à la suite de cette visualisation qu'elle est transposée dans le médium textuel par Flaubert. Cette réception de la légende par Flaubert peut alors être décrite, au sens où Hans-Robert Jauss emploie cette mot, comme créatrice, actualisante et productive. Cela implique que Flaubert n'écrivait pas de légendes édifiantes, mais qu'il entreprenait une réécriture sous le signe de son époque. Pardon. En admettant que la légende dispose d'une dimension intermédiaire, il faut pourtant se demander en quoi cette forme se distingue par rapport à d'autres formes telles que le conte par exemple. Dans cette perspective, il me semble utile de recourir à l'étude sur le fictif et l'imaginaire de Wolfgang Iser. Il souligne que l'imaginaire du texte n'est pas un potentiel qui pourrait s'activer lui-même, mais qu'il a besoin d'être activé de l'extérieur, par exemple par le sujet. Si nous appliquons ces réflexions à notre problématique, nous pouvons dire que la forme légende dispose d'un potentiel imaginaire qui favorise sa réception et sa transposition dans d'autres médias. Tandis qu'au Moyen-Âge, le merveilleux chrétien de la légende médiévale est lié aux pratiques religieuses, il perd cette fonction pragmatique dans le processus de la réception romantique. Cornelius Castoriadis a décrit l'imaginaire de la société comme un système de signifiés qui est mis à la disposition d'une communauté. On pourrait donc dire que l'imaginaire de la légende médiévale est caractérisé en tant qu'imaginaire collectif. Mais quand la légende est objet de réception au XIXe siècle, cet imaginaire est rapporté à une expérience individuelle et singulière. Je voudrais appuyer ces réflexions sur des exemples de textes qui mettent en scène le potentiel imaginaire de la légende dans sa dimension intermédiaire. Je veux parler de Madame Bovary et d'Un cœur simple. Au niveau du discours, les deux textes suivent la structure narrative d'une légende. De plus, on y découvre maintes références à des légendes textuelles et visuelles précises. Le choix de Madame Bovary dans ce contexte peut surprendre. En effet, on peut lire Madame Bovary comme une anti-légende. Barbara Vinken a parlé de vierge enversée la dernière fois, mais ce que j'implique quand je dis anti-légende est autre chose. Le point de départ de ma réflexion était la question de savoir ce qui distinguait la tentation de Saint-Antoine de Madame Bovary. Autrement dit, je me suis demandé pourquoi la première version de la tentation de Saint-Antoine était à jeter au feu, selon le commentaire de ses amis, tandis que Madame Bovary est considérée comme le début du roman moderne. Flaubert lui-même établit un parallèle entre les deux textes quand il écrit dans une lettre, je cite, « Ce sera diamétralement l'antipode de Saint-Antoine, mais je crois que le style en sera d'un art plus profond. » Déjà Baudelaire avait souligné les parallèles qui existent entre Saint-Antoine et Emma. La recherche a mis en avant d'autres points communs comme le thème de la tentation, le mythe d'Ararnée. Je pense ici surtout aux travaux de Marianne Byerley et de Margaret Law. Il me semble qu'il y a encore un autre parallèle entre ces deux textes. La structure narrative de Madame Bovary se présente comme la profanation d'une légende, avec cette différence que le texte ne parle pas d'une sainte, mais d'une anti-sainte, d'une adultère. Au niveau du discours, on peut en effet retracer les moments narratifs d'une légende, ces moments sentis à travers le texte du roman comme dans un palimpseste, mais ces moments sont à chaque fois renversés dans leur contraire, niés ou ironisés. Hans Robert Jaus a décrit la structure narrative d'une légende par les moments suivants, la prédestination du saint, puis la crise où le péché se produit, ensuite la passion que le saint doit endurer pour démontrer sa vertu, et finalement l'effet posthume, c'est-à-dire le miracle. Dans Madame Bovary, tous ces moments sont présents. Emma semble d'abord avoir une vocation, une prédestination, comme elle est dit dans le texte, pendant qu'elle est éduquée au couvent. Lors de son mariage avec Charles, elle ressent des moments de crise et de passion. Le mariage est écrit comme un martyr, un sacrifice qu'elle subit et au cours duquel elle essaie d'abord de rester vertueuse et fidèle à Charles au lieu de rebondir avec Léon. La passion est évoquée dans l'ambiguïté du mot. Il y a l'amour passionnel qu'elle vit avec Rodolphe et la passion, la douleur qu'elle endure après la rupture. Après sa mort, elle a encore une mauvaise influence sur Charles. Le texte nous dit qu'elle le corrompait par-delà le tombeau. Sans pouvoir entrer dans les détails, ces quelques indices soulignent la façon dont la structure narrative d'une légende est suggérée par Flaubert. Insérée dans cette anti-légende se trouve également la profanation d'une autre légende, celle de Saint-Hippolyte. Dans le cadre de ce séminaire Flaubert, Edith Sollinger a déjà présenté le tableau martyr de Saint-Hippolyte de François-Joseph Heim qui a influencé Flaubert dans l'épisode de l'opération du pied bot. On pourrait ajouter que la version écrite de la légende de Saint-Hippolyte est également présente chez Flaubert. Je voudrais pourtant privilégier d'autres moments d'images légendaires, légendées, qui mettent en scène le potentiel imaginaire de la légende. On a beaucoup disserté sur le fait qu'Emma est une lectrice, qu'elle aperçoit le monde à travers le regard de ses lectures romantiques. Aussi a-t-on souligné les keepsakes qu'elle regarde en cachette. On a pourtant moins dit sur le fait qu'elle est également une lectrice de textes religieux, une contemplatrice de l'iconographie chrétienne. Ce qui réunit la lecture des légendes textuelles avec la lecture des images légendées, c'est le but de l'acte de réception, à savoir l'imitatio. C'est ce schéma de réception qui sera par la suite confondu dans deux types de lecture chez Emma. D'un côté, il y aura l'imitation en tant que schéma de réception intentionnelle de légendes qui mettent en scène des saints qui sont à imiter. D'autre part, il y aura l'imitation d'histoires romantiques ou même utopiques, par exemple Paul et Virginie ou encore des romans d'amour. Et celle-ci empêchera Emma de réussir dans la vie réelle. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre un épisode de la jeunesse d'Emma. Dans le chapitre 6 du premier livre, le narrateur nous raconte le voyage d'Emma avec son père pour aller au couvent. C'est la première citation sur la feuille. Ils descendirent dans une auberge du quartier Saint-Gervais où ils eurent à leur souper des assiettes peintes qui représentaient l'histoire de Mademoiselle de Lavallière. Les explications légendaires, coupées çà et là par les égratignures des couteaux, glorifiaient toute la religion, les délicatesses du cœur des pentes de la cour. Le détail de ce dîner semble tout à fait insignifiant, d'autant plus que pour une fois Flaubert ne dit aucun mot sur le repas. Mais le narrateur attire notre attention sur les assiettes peintes, et c'est donc ce détail qui se lit comme une anticipation de la vie d'Emma, de son éducation religieuse et de son éducation sentimentale. Tout comme le lieu porte le nom d'un saint, mais c'est sans importance, les modèles religieux sont égratignés, maculés, c'est-à-dire désacralisés et banalisés, en apparaissant sur des objets d'usage courant, les assiettes. Et de même que les légendes des images sont raturées, les images elles-mêmes et leur contenu sont dépourvus de sens et abîmés. L'ironie subtile souligne que ces contenus glorieux, religion, cœur, cour, ont perdu leur signification. La légende n'est finalement qu'une image légendée, un cliché. Ce n'est pas un hasard si la légende évoquée est l'histoire de Mademoiselle de Lavallière, l'ancienne maîtresse du roi qui finit répudiée et qui doit passer sa vie au couvent. Cette histoire était assez répandue au début du XIXe siècle, et c'est à Lavallière qu'Emma se comparera plus tard avec sa rupture avec Rodolphe. Je cite « Dans l'orgueil de sa dévotion, Emma se comparait à ces grandes dames d'autrefois dont elle avait rêvé la gloire sur un portrait de Lavallière et qui, traînant avec tant de majesté la queue chamarrée de leur longue robe, se retiraient en des solitudes pour y répandre aux pieds du Christ toutes les larmes d'un cœur que l'existence blessait. » Le portrait reste un blanc, mais il est évident qu'il s'agit de nouveau d'une image stéréotypée qui met en scène un moment d'imitatio qui a été banalisé. C'est que le portrait présente pourtant, c'est un cliché, une certaine pose qu'Emma voudrait imiter. Au couvent, c'est encore l'imitation qui est au centre des lectures de la jeune Emma. Sa réaction par rapport au texte religieux s'apparente à un vide, mais le narrateur souligne sa lecture des images. C'est la deuxième citation. Au lieu de suivre la messe, elle regardait dans son livre les vignettes pieuses bordées d'azur et elle aima la brebis malade, le Sacré-Cœur percé de flèches aiguës ou le pauvre Jésus qui tombe en marchant sous sa croix. Elle essaya par mortification de rester tout un jour sans manger. Elle cherchait dans sa tête quelques vœux à accomplir. Je saute un peu. Les comparaisons de fiancés, d'époux, d'amants célestes et de mariage éternel qui reviennent dans les sermons lui soulevaient au fond de l'âme des douceurs inattendues. Contrairement à Félicité dans un cœur simple et qui n'est pas capable de comprendre les dogmes chrétiens et qui commence à aimer les agneaux dans la nature surtout à cause du symbolisme de l'Agnus Dei, Emma, quant à elle, comprend les dogmes, mais elle s'y intéresse surtout à cause de l'iconographie de la vie de Jésus. Les trois images symbolisant l'amour de Jésus pour les hommes et sa passion l'incitent à une imitatio. La description de son imitation est assez ambivalente. L'évocation de la couleur des vignettes accentue son regard profane sur les images. L'amour sacré se confond dans sa conscience avec l'amour profane. On peut comprendre son comportement en tant qu'ascèse et contemplation, mais le but de ses pratiques, c'est-à-dire l'union mystica, l'union avec Dieu, est profané dans ce passage et reste lié à des rêveries séculières. Ainsi, sa confession semble surtout lui donner un plaisir quelque peu pervers. Dans un brouillon, Flaubert avait formulé cet aspect plus clairement quand il disait, je cite, « Il lui semblait qu'il y avait du bonheur à être martyr. » Fin de citation. C'est la citation intime de la confession et certains mots-clés du prêtre qui incite Emma à la rêverie. Ceux qui stimulent son imaginaire, ce sont donc à la fois des images et des paroles. La contemplation de vignettes religieuses est opposée à celle des keepsakes qui sont interdits au couvent, je cite, « Et l'abat-jour du quinquet, accroché dans la muraille au-dessus de la tête d'Emma, éclairait tous ces tableaux du monde qui passaient devant elle les uns après les autres dans le silence du dortoir. » Fin de citation. Les images semblent bouger et apparaissent séquentiellement devant les yeux d'Emma, comme dans un diaporama avant la lettre. Leur évocation peut être comparée aux visions de saint Antoine, chez qui les images mentales sont également converties en une suite d'images vivantes et mouvantes. Dans le cas d'Emma, il s'agit d'images profanes à contenu romantique et sentimental qui stimulent son imaginaire. Jadis, les lectures de textes séculiers et religieux étaient mises en relation, et c'est le schéma de réception, à savoir l'imitation, qui les unissait. Ici, ce sont les lectures d'images à contenu profane et sacré qui sont mises en relation. Cette technique de juxtaposition a pour résultat que les deux modèles de vie sont opposés au niveau de la fiction. Après l'arrivée à Yonville, l'abbé, Emma essaie de jouer le rôle d'une bonne mère et d'une épouse vertueuse. Elle est adorée par les pauvres pour sa charité et Léon se montre très impressionné parce qu'elle lui apparaît si vertueuse. Comme le texte nous le dit, dans un brouillon, Flaubert a formulé ce rôle de façon plus claire quand il a écrit qu'elle passait presque pour une sainte. Dans le texte définitif, il en reste, non sans ironie, une sorte de sublimation d'Emma. Pourtant, Emma souffre. Elle est amoureuse de Léon, mais elle essaie de cacher ses émotions et de rester vertueuse. Je vous renvoie à la citation 3 sur la feuille que je ne vais pas lire. Les mots en italique soulignent l'ambiguïté du discours. Il n'est pas nouveau de décrire un chagrin d'amour par le vocabulaire de la maladie, mais ici, les connotations font clairement référence à martyr. Ceux dont elle souffre, à savoir les appétits de la chair, les convoitises d'argent et les mélancolies de la passion, est décrit comme une chaîne de péchés mortels. La visualisation propre au texte flaubertien est extrêmement forte dans ce passage. On pourrait presque s'aventurer à le lire comme une légende dans la mesure où le texte est immédiatement transposé en image. Quand Emma prend des poses devant le miroir, elle propose des images d'elle-même. Ses états d'âme sont fixés dans le miroir. On a presque l'impression qu'avec ces mots « je suis vertueuse », elle s'attribue un rôle légendaire, que c'est le sous-texte d'une de ses images. On peut aller un peu plus loin. Emma prendra de nouveau une pause. Elle fait sa toilette et Justin la contemple. C'est la prochaine citation. Elle commençait par retirer son peigne en secouant sa tête d'un mouvement brusque. Et quand il aperçut la première fois cette chevelure entière qui descendait jusqu'au jarret en déroulant ses anneaux noirs, ce fut pour lui, le pauvre enfant, comme l'entrée subite dans quelque chose d'extraordinaire et de nouveau dont la splendeur l'effraya. Cette scène rappelle le genre de pose que nous avons vu plus haut. Nous retrouvons quelque chose de la légende de la Vallière, avec ce portrait d'Emma, avec cette pose qui n'est plus réfléchie dans un miroir mais dans les yeux de jeune Justin. Le narrateur fait surgir une image légendaire. Un sous-texte de référence pourrait en faire aussi une image légendée, car Emma ressemble avec sa longue chevelure à Sainte Agnès ou à Sainte Marie l'Égyptienne. Il serait même possible de faire un rapprochement avec la Esmeralda, une figure littéraire qui a à voir avec ces deux légendes saintes. Quand Rodolphe met un terme à sa liaison avec Emma en écrivant la lettre fatale, elle tombe malade. La description de ce martyr corporel fait une nouvelle fois référence à un vocabulaire légendaire. Emma se croit agonisante et demande le dernier sacrement. Pendant les préparatifs pour le sacrement, Emma a une vision que l'on pourrait décrire comme une ascension imaginaire. Emma, c'est la prochaine citation, Emma sentait quelque chose de fort passant sur elle qui la débarrassait de ses douleurs, de toute perception, de tout sentiment. Sa chair allégée ne pesait plus, notre vie commençait. Il lui sembla que son être montant vers Dieu allait s'anéantir dans cet amour comme un encens allumé qui se dissipe en vapeur. On aspergea d'eau bénite et les draps du lit. Le prêtre retira du Saint-Ciboire la planche hostie et ce fut en défaillant d'une joie céleste qu'elle avança ses lèvres pour accepter le corps du Sauveur qui se présentait. Les rideaux de son alcôve se gonflaient mollement autour d'elle, en façon de nuée, les rayons des deux cierges brûlant sur la commode lui parurent être des gloires éblouissantes. Alors elle laissa retomber sa tête, croyant entendre dans les espaces le chant des harpes séraphiques et apercevoir un ciel d'azur sur un trône d'or au milieu des saints, tenant des palmes vertes, Dieu le Père, tout éclatant de majesté, et qui d'un signe faisait descendre vers la terre des anges aux ailes de flammes pour l'emporter dans leurs bras. Cette vision splendide demeura dans sa mémoire comme la chose la plus belle qu'il fut possible de rêver, si bien qu'à présent elle s'efforçait d'en ressaisir la sensation qui continuait cependant, mais d'une manière moins exclusive et avec une douceur aussi profonde. Cet épisode que l'on pourrait comparer au moment narratif de l'ascension, moment clé des légendes, met en scène l'imaginaire légendaire d'Emma. Tout un champ lexical du sentiment renforce la vision d'Emma. Dans un contexte de légende, on aurait parlé de merveilleux chrétien. Mais le narrateur souligne surtout l'ambiguïté des sensations et de la vision de l'héroïne. Il y a une gradation des moments qui mène jusqu'à la communion et ce climax implique une certaine dimension érotique. La signification littérale et symbolique du corpus Christi suggère presque un orgasme. Ce passage annonce la vision nocturne qu'éprouvera la mère de Julien dans la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. Mais dans Madame Bovary, le narrateur accentue le fait que cette ascension se passe dans l'imaginaire d'Emma. En ce qui concerne les images mentales d'Emma, Flaubert fait clairement référence à une iconographie chrétienne. Dans un brouillon, il avait noté « Dieu le Père sur des nuées, le monde de Fiesole ». Évidemment, il pensait à des tableaux de Fra Angelico da Fiesole qu'il avait vus à Florence. Même s'il a finalement décrit les visions différemment, les images de l'extase d'Emma reprennent les représentations typiques de saints. Mais ces images légendées sont surtout à voir dans leur dimension esthétique. L'ambiguïté du discours flaubertien suggère donc à la fois une esthétisation du texte, une sublimation d'Emma, et un traitement ironique du discours légendaire dans la mesure où le romancier met en scène l'ascension d'une adultère. Après cette communion, Emma est guérie, ou c'est au moins l'opinion de Charles. Mais même si le texte reste assez vague sur la relation de cause à l'effet, Emma commence de nouveau à s'intéresser à la religion. Le texte nous dit, je cite, « Elle voulut devenir une sainte. Elle acheta des chapelets, elle porta des amulettes, elle souhaitait avoir dans sa chambre au chevet de sa couche un reliquaire enchâssé d'émeraude pour le baiser tous les soirs. » Fin de citation. Son comportement correspond à un commentaire ironique sur le culte de l'imitation des saints, au lieu de prier ou d'agir de manière authentique. Elle achète des objets de dévotion, ce sont de nouveau des poses qu'elle imite. La recherche a souligné des parallèles entre Emma et la Esmeralda de Notre-Dame de Paris. Ce passage pourrait confirmer cette perspective, puisque la Esmeralda porte elle aussi une amulette d'émeraude. D'ailleurs, le personnage de la Esmeralda est à mettre en rapport avec la légende de Sainte Agnès, mais ce sera un autre sujet. J'arrive à mon dernier point, le potentiel imaginaire du conte, un cœur simple, et l'imaginaire légendaire, légendé de Félicité. La visualité dans Madame Bovary peut être comparée avec la visualité dans Un cœur simple, mais il y a une approche différente de l'image légendée. En fait, dans l'ensemble des trois contes, Flaubert nous donne un aperçu de l'évolution de la forme légende. Avec Un cœur simple, il montre ce qui reste de la forme au XIXe siècle. On peut lire ce texte comme une légende moderne au niveau du discours, puisqu'il reprend de nouveau la structure narrative d'une légende, mais l'imagerie n'est plus perçue dans sa totalité. Avec la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, Flaubert met en scène le rapport texto-visuel à travers le dispositif du vitrail, et plus précisément à travers une poétique du vitrail et de fenêtres profanées. Dans Hérodias, il montre avec Saint-Jean-Baptiste les débuts de la forme légende. La recherche a souligné le silence de Félicité, sa bêtise ainsi que le cliché linguistique qui se matérialise dans le loup. Je voudrais montrer pour ma part dans quelle mesure l'imaginaire de Félicité contribue à générer dans le texte une image légendée d'elle. Je reprends un passage qui sans aucun doute vous est bien connu pour voir de quelle manière l'image légendée est mise en scène dans ce conte. C'est la prochaine citation sur la feuille. Le curé se tenait debout près du lutrin, sur un vitrail de l'abside, le Saint-Esprit dominait la Vierge. Un autre la montrait à genoux, devant l'enfant Jésus, et derrière le tabernacle, un groupe en bois représentait Saint-Michel terrassant le dragon. Le prêtre fit d'abord un abrégé de l'histoire sainte. Elle croyait voir le paradis, le déluge, la tour de Babel, des villes tout en flammes, des peuples qui mouraient, des idoles renversées. Et elle garda de cet éblouissement le respect du Très-Haut, la crainte de sa colère. Dans cette scène, la parole est liée à ce qu'il y a à voir dans l'espace de l'Église. Autrement dit, il y a fusion entre une réception auditive et une réception visuelle de la légende. Le vitrail et la statue représentent les visualisations de la légende de Sainte Marie et de Saint Michel. Dans la formulation « le Saint-Esprit dominait la Vierge », la syntaxe simple semble refléter la simplicité du regard de félicité, mais elle véhicule également une sublime ironie et une connotation érotique. Le vitrail du Saint-Esprit trouve un renversement pictural dans la statue de Saint-Michel, qui met aussi en scène une domination, mais à l'envers. Cette fois, c'est l'homme qui domine un animal. Le vitrail de l'église Saint-Michel à Pont-l'Évêque représentait encore l'archange Gabriel, comme l'a constaté Ulrich Mölk. Je vous montre alors... Voilà, c'est le vitrail que Ulrich Mölk a trouvé. Donc ici, on voit la Vierge, et ici, le Saint-Esprit, dans le symbole de la colombe, en fait. Ici, c'est l'archange que Flaubert ne décrit pas dans son texte. Il semble que Flaubert a omis ce détail pour se concentrer sur le groupe que forment le Saint-Esprit et la Vierge. De plus, ce passage anticipe la fin du conte, le moment où Félicité sera dominée par le perroquet, simulacre du Saint-Esprit dans son imaginaire. Cette interprétation est renforcée par l'évocation du tabernacle, lieu saint du corps du Christ, qui renvoie à la fête Dieu, la fête du corps et du sang du Christ. La statue de Saint-Michel représente une visualisation légendée d'un passage de l'Apocalypse. C'est justement de l'Apocalypse que le prêtre parle dans la suite du récit. Les mots sacrés de la Bible sont directement convertis en images dans l'imaginaire de Félicité. Il est intéressant de noter que Flaubert attribue à Félicité cette capacité de visualisation concernant l'histoire sainte, alors qu'il souligne que sa capacité d'abstraction est défaillante. La confusion du Saint-Esprit avec le loulou se fait par étapes. D'un côté, le texte illustre ce que Alfred Maury a décrit dans son essai sur les légendes pieuses du Moyen-Âge, à savoir la désacralisation du symbolisme chrétien par le peuple, car celui-ci confondait le symbole et l'idée. D'autre part, le perroquet et le Saint-Esprit sont de plus en plus liés dans la dimension visuelle. Le texte nous dit qu'il, le perroquet donc, je cite, « occupait depuis longtemps l'imagination de Félicité » car il venait d'Amérique et ce mot lui rappelait Victor. C'est de nouveau un mot qui incite son imaginaire à créer des images mentales. Quand on lui donne le perroquet comme cadeau, le texte commence la description par « ce jour-là, il lui atteint un grand bonheur ». C'est le seul moment où le mot « bonheur », synonyme du prénom de l'héroïne, est utilisé. C'est à partir de ce moment qu'elle devient la femme à l'oiseau. La recherche a à juste titre souligné le motif de la femme avec perroquet dans la littérature et la peinture. Mais l'association de Félicité avec le perroquet s'inscrit dans notre perspective. Comme on l'a déjà vu avec le vitrail et la statue, on a souvent affaire à un saint accompagné par un animal, ou un animal symbolique, ou un vrai animal. L'association de Félicité avec Loulou, dans la dimension textuelle, a donc pour fonction de créer un moment de profanation de la légende. Dans l'iconographie chrétienne, Sainte Félicité est souvent représentée avec un taureau, une référence qui est bien sûr également présente dans le texte flaubertien. Mais c'est en l'associant avec le perroquet que le romancier crée une nouvelle image légendée dans l'imaginaire du lecteur. Pardon. Ce processus de profanation d'une légende au double niveau narratif et visuel me semble particulièrement novateur. La mise en relation de Félicité Loulou avec Vierge Saint-Esprit Colombe se fait à la fois au niveau textuel et visuel. D'une part, Loulou s'est répété des bribes de paroles de la prière, même si « je vous salue Marie » est également à comprendre dans un sens littéral et profane. D'autre part, Loulou ressemble de plus en plus aux images légendaires dans l'imaginaire de Félicité. À ce propos, il faut se souvenir que Félicité achète une image d'Épinal. Je vous renvoie à la citation 7 sur la feuille. À l'église, elle contemplait toujours le Saint-Esprit et observa qu'il y avait quelque chose du perroquet. Sa ressemblance lui parut encore plus manifeste sur une image d'Épinal représentant le baptême de notre Seigneur. Avec ses ailes de pourpre et son corps d'émeraude, c'était vraiment le portrait de Loulou. L'ayant acheté, elle le suspendit à la place du comte d'Artois, de sorte que du même coup d'œil, elle les voyait ensemble. Ils s'associèrent dans sa pensée, le perroquet se trouvant sanctifié par ce rapport avec le Saint-Esprit, qui devenait plus vivant à ses yeux et intelligible. Le père, pour s'énoncer, n'avait pu choisir une colombe, puisque ces bêtes-là n'ont pas de voix, mais plutôt un des ancêtres de Loulou. Et Félicité priait en regardant l'image, mais de temps à autre se tournant un peu vers l'oiseau. Dans les archives du musée à Épinal, j'ai pu trouver cette image d'Épinal dont il est question ici. On voit la colombe au-dessus de la tête de Saint Jean-Baptiste, elle est véritablement colorée dans le style de l'imagerie. Encore un détail, voilà, la colombe. Je dois avouer qu'il y a bien une ressemblance avec un perroquet, en tout cas un oiseau à plumes colorées. Je donne également le perroquet que Flaubert a utilisé, qu'il avait devant les yeux quand il a écrit Un cœur simple. Je trouve qu'on voit très bien cette ressemblance entre le perroquet et la colombe. Par rapport à la description flaubertienne, le rouge et le vert sont inversés, mais comme Martine Sadian, la conservatrice en chef du musée, m'a l'a confirmé, les images étaient imprimées avec des couleurs différentes selon les tirages. Donc peut-être Flaubert avait-il vraiment une image avec ces couleurs sous les yeux. On peut comprendre la référence à Épinal dans le texte comme un clin d'œil de Flaubert qui se moquait de cette imagerie. En même temps, Flaubert dénonce peut-être l'image d'Épinal en tant que moyen de représentation à l'ère de la reproduction technique, car celle-ci n'est pas apte à rendre le symbolisme chrétien. La mise en relation entre symboles chrétiens et objets concrets, évoquée par Alfred Maury dans son essai sur les légendes pieuses, prend plus d'importance encore avec les nouveaux médias. C'est dans les dernières lignes d'Un cœur simple que Félicité se transforme en image légendaire. L'axe vertical suggéré par la phrase « Le Saint-Esprit dominait la Vierge » est renversé. Félicité crut voir dans les cieux entrouverts un perroquet gigantesque planant au-dessus de sa tête. Au niveau de l'histoire, la fin du conte établit une analogie par rapport au vitrail, renvoyant à la représentation de la légende de Sainte-Marie. Au niveau du discours, cette fin met en scène une opposition qui pourrait bien être une querelle entre les médiums du vitrail et le médium du texte. On peut donc comprendre cette fin comme une triomphe du médium du texte, ou plus précisément comme la mise en scène d'une légende profanée de Sainte Félicité qui surpasserait l'image légendée du vitrail. En guise de conclusion, on peut constater que Flaubert met en scène une querelle entre le texte et l'image en se servant de la forme légende. Les analyses ont montré que la forme légende excelle en tant que forme d'art complexe et autoréflexive, se référant à la fois à des légendes textuelles et à des légendes visuelles. On a vu que la légende pouvait être saisie dans une variété de représentations médiales. Les assiettes peintes et légendées qu'Emma découvre à l'auberge, les vignettes pieuses dans son livre de messe, le vitrail que regarde Félicité, ou encore l'image d'Épinal. Flaubert oppose à ces représentations d'images légendées d'autres images légendées qui sont évoquées au niveau du discours, c'est le cas de sa description d'Emma en référence à la légende de Sainte-Marie, c'est encore le cas des visions d'Emma et de Félicité qui sont à lire comme des ascensions imaginaires. L'esthétisation de la légende chez Flaubert se présente donc comme une querelle de légende texte et de légende image au niveau du texte. Les visions d'Emma et de Félicité illustrent avant tout le potentiel imaginaire de la légende, c'est-à-dire la production créatrice d'images mentales à partir d'une imagerie légendaire. Ces visions ne se réalisent que dans le médium du texte. les médias du XIXe siècle génèrent une banalisation de l'art religieux, comme les exemples des assiettes peintes et de l'image d'Épinal l'ont montré, mais tout dépend de la réception. C'est dans l'imaginaire que le texte fait voir. Dans cette mesure, on pourrait parler d'un éclaircissement réciproque entre les arts, pour reprendre le terme de Oscar Waltzel. Seulement, il faut comprendre que cet éclaircissement sert à mettre en scène le texte même et sa textualité, ainsi que les couches du palimpseste à travers lesquelles scintillent à la fois des légendes textuelles et visuelles. Nous avons souligné au début que l'imaginaire de la légende médiévale était caractérisé par un imaginaire collectif. Nos exemples confirment qu'au XIXe siècle, c'est une expérience individuelle et singulière qui est centrale. Les visions d'Emma et de Félicité ne se matérialisent en images mentales que dans l'imaginaire du lecteur. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre Madame Bovary et les trois contes. Ces textes montrent comment la voix chrétienne, présente au début de la forme légende, se tait à travers les siècles. Tandis que dans Hérodias, la voix s'éleva avec Saint Jean-Baptiste, une parole déjà très ambiguë apparaît dans la légende de Saint Julien l'Hospitalier. Avec Madame Bovary et Un cœur simple, la parole religieuse se tait et ne sert que de tremplin à l'imaginaire. La visualisation se fait pourtant dans le médium du texte, et c'est ainsi que Flaubert, l'ermite de Croisset, le saint du roman, comme disait Heinrich Mann, s'éternise dans la dimension textuelle de ses écrits. Je vous remercie de votre attention.
Merci pour ce beau parcours intermédiaire entre texte-image. Merci aussi d'avoir tenu compte du thème du séminaire en évoquant les querelles à la fin. Et il me semble que c'est le pouvoir du roman, et en particulier du roman flaubertien, de permettre cette sorte de phénoménologie de l'imaginaire des personnages qui permet cette circulation du texte à l'image. Est-ce que, ensuite j'ouvre la discussion. Vous avez cité Maury, et effectivement on pense immédiatement à Maury sur les légendes pieuses au Moyen-Âge. Je me demandais si la lecture de Maury informait aussi le travail de je ne sais plus la date de Maury.
Oui, c'est 1834 il me semble.
Voilà,
Flaubert connaissait Maury, il connaissait cet essai sur les légendes pieuses.
Bien sûr, il le connaissait, mais ce que je voulais dire c'est que vous avez évoqué Un cœur simple, est-ce qu'on peut évoquer de la même façon Madame Bovary sur la démythification de la légende et le travail de Maury? Est-ce que ça vous paraît pertinent?
Je crois Flaubert connaissait Maury, je crois, depuis longtemps. Il connaissait ses travaux, et aussi les autres travaux de Maury. Il y a une lettre de Flaubert où il dit exactement qu'il a besoin de ce livre pour écrire la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. Et je crois, justement, par rapport à toutes ces recherches qu'il a fait pour la tentation de Saint-Antoine, c'est très possible, en fait, qu'il a déjà consulté les travaux de Maury. De toute façon, il était très conscient, je crois, de la légende textuelle, de la structure narrative d'une légende hagiographique. Et il connaissait la légende de Saint-Julien aussi de sa jeunesse. Donc, je crois qu'il faut voir tous ces textes, en fait, oui, qu'il y a des liens, en fait, entre tous ces textes.
Je pensais à Madame Bovary, je pense que Maury, il a surtout travaillé pour dans les années 70.
Non, je crois qu'il a. Est-ce que quelqu'un.
Cette démystification des clichés,
oui.
Des clichés religieux et de la. À partir de la démythification des noms, tels que Maury le développe dans les légendes pieuses, puisque vous avez évoqué le parcours de Madame Bovary comme un anti,
oui.
comme le parcours d'une anti-sainte. Oui. Je me demandais, c'est une question, hein, je n'ai pas de réponse.
J'ai l'impression que c'est une tendance, en fait, dans au siècle, au 19e siècle. Nous avons une republication de la légende dorée de Jacques de Voragine. Il y a trois traductions françaises qui sont publiées au cours du 19e siècle. Il y a des éditions philologiques de la légende dorée. Il y a également des travaux sur la légende hagiographique, comme ce travail de Maury. Donc je crois que Flaubert, il était très conscient de toute cette tendance. Et qu'en même temps, en préparant la première version de la Tentation de Saint-Antoine, il a déjà fait ce travail de désacralisation, parce que pour lui, il ne s'agit pas justement d'écrire des légendes à caractère édifiant. Et on pourrait, justement pour Madame Bovary, on pourrait évoquer le passage où Emma a rendez-vous avec Léon dans la cathédrale de Rouen, où il y a ce guide suisse qui fait une visite guidée de la cathédrale, donc ce passage tout à fait ironique. Et je trouve que déjà dans ce passage, on sent très bien qu'il y a plus cette... au début, il y a un moment où Léon attend Emma dans la cathédrale, il regarde le vitrail, mais c'est en fait le vitrail de la légende de Saint-Julien, mais il regarde le vitrail en comptant les boutons d'un pêcheur. Donc en fait, ce n'est pas un regard religieux, esthétique, c'est un regard profane, un regard désacralisé. Donc je trouve que c'est déjà présent dans Madame Bovary.
François Gaillard, Pierre Martin.
Maury s'est intéressé à la physiologie médicale, mais s'est intéressé à la médecination. Et je crois que ça, c'est très important, justement, cet aspect hallucination. C'est-à-dire, Flaubert s'intéresse aux images qui n'ont pas de reflet, aux images qui sont créées directement. Et l'hallucination en est une, et un exemple. Et par exemple, justement, c'est intéressant de voir ce passage dont vous avez parlé, de la tentation de Saint-Antoine à Madame Bovary, comment se font les images ensemble. C'est quelque chose qui intéresse Flaubert, et il essaie d'expérimenter continuellement dessus. Quelquefois, il le fait avec des moyens qui ne sont pas vraiment modernes. Je pense à la fameuse prosopopée qui arrive à la suite. Hein. Et vous y étiez tous, hein, à propos d'Eclipse, vous y étiez tous sur le temps, etc. C'est vraiment quelque chose de très traditionnel. Hein. Et d'une manière générale, il utilise beaucoup l'hypotypose qui consiste à animer une image. Donc il est vraiment intéressé par l'expérimentation. Comment, donc c'est à la fois, si vous voulez, dans le représenté du texte, c'est comment on passe de trois lignes légendées sous une image à l'image elle-même, à sa signification, à son caractère visuel. Donc comment on passe du texte visuel, mais aussi ensuite à un autre niveau qui est le niveau de sa propre écriture, évidemment, comment moi je fais pour faire passer le lecteur de l'impression qu'il voit quelque chose au fait que, en fait, je ne lui présente que des mots. Hein. Donc, il est continuellement intéressé par ça, et il y a probablement une évolution là. Hein. Son travail s'affine entre Madame Bovary et Ingersoll, hein, à propos précisément de la légende. Mais alors, l'animation est toujours là, c'est fascinant. Déjà, dans le texte où Emma à sa petite crise religieuse là, donc elle s'imagine montant un esprit, enfin. Bon, il y a les rideaux de l'alcôve qui se gonflaient, hein. Donc c'est vraiment l'animation de l'image qui le passionne. Hein.
Tout à fait. Je crois que c'est très important ce que vous dites, et justement, c'est pour ça que j'ai aussi fait référence à la troisième version de la Tentation de Saint-Antoine, où on voit justement que les images mentales de Saint-Antoine sont vraiment mouvementées. Je dirais, avec Saint-Antoine, enfin, la dernière version, on pourrait même parler d'une sorte de cinéma avant la lettre, tandis qu'ici, avec Emma, avec la citation que je vous ai donnée, c'est plutôt un diaporama. Donc,
Il y a peut-être un jeu chez lui entre l'animation. Finalement, s'il y a tant d'animaux, c'est pas un animal. Donc, il y a la superposition du perroquet empaillé, qui est une espèce d'idole de fétiche, et puis de l'image épinale. Hein. Et les deux images sont superposées. Et elles ont aussi comme thème l'animal, précisément, et la peau. excuse-moi.
Non, mais je t'en prie, François. Au contraire, c'est très intéressant. Il est évident que ces rideaux qui se gonflent évoquent évidemment ces espèces de nuées qui sont toujours un petit peu soufflées. Non, moi je voudrais revenir sur un point, mais ça me tient. Enfin, c'est... ma petite remarque porterait plutôt sur ce que vous avez tiré au fond de ce que dit Castoriadis, que disent d'autres commentateurs, à propos de cette transformation, de ce changement, de ce passage d'un imaginaire collectif à un imaginaire qui devient un imaginaire personnel. Je n'en suis pas entièrement convaincue. Je crois que les choses se jouent ailleurs. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les vitraux, bon, d'abord, il est évident qu'à une époque très moderne, et même encore au XIXe siècle, pour quelqu'un comme Félicité, les occasions de voir des images ne sont pas si grandes que cela. Évidemment, elles sont plus nombreuses qu'au Moyen-Âge, mais enfin, elles ne sont pas si grandes. Bon. Mais donc, le rôle de ces images religieuses, et surtout de ces vitraux, c'est de permettre aux individus de s'approprier dans leur propre imaginaire les scènes qui sont représentées. Donc, il y a aussi une fonction, je dirais, d'appropriation singulière. Même si ces images participent, bien évidemment, d'un imaginaire collectif, ce qu'elles continuent à faire, d'ailleurs, sous une forme plutôt culturelle au XIXe siècle, elles ont véritablement ce rôle. Hein. Il s'agit pour les individus d'avoir peur ou d'être en empathie, ou etc. Bon. Donc, ce n'est pas si tranché que cela. Alors, évidemment, ce qui se passe, à la différence de ce qu'on pourrait lire dans les textes médiévaux, ce qui se passe dans le roman flaubertien, qui est un roman où les expériences deviennent des expériences individuelles. Hein, l'expérience est envisagée dans son individualisation. Alors, ça accentue cet effet. Je ne suis pas sûre que le démarquage soit aussi net. Vous voyez, entre la manière dont ça va travailler dans les imaginaires. Je crois que ça travaille toujours dans les imaginaires singuliers, sauf que le roman moderne prétend d'expériences individualisées, cela va à peine. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir que ce qui se joue davantage entre ces deux moments, c'est le passage du sacré au profane. C'est que ces images, dans l'expérience qui reste une expérience individuelle dont on ne peut pas très très bien comprendre aujourd'hui ce qu'elle pouvait être pour quelqu'un d'une époque prémoderne quand il allait à l'église, et ce qu'elle devient dans le texte flaubertien, c'est moins l'idée qu'elle s'individualise dans l'imaginaire que quelque chose s'opère, un passage, alors là qui n'avait pas lieu, entre le profane et sacré, et que le sacré de ces images devenant profane, les scènes peuvent se superposer, c'est-à-dire qu'elle peut s'imaginer, au moment de cette pseudo-agonie, qui anticipe une autre qui sera infiniment moins colorée et moins belle que la première, etc., que les deux scènes, la scène sacrée représentée dans l'imagerie pieuse et la scène réaliste d'Emma sur son lit, se superposent. Et ça permet aussi la superposition entre le perroquet et le Saint-Esprit. Et donc je vois que la différence entre les deux rapports à des images qui appartiennent à la même culture serait de l'ordre du passage du sacré au profane, donc effectivement d'une désacralisation qui est en même temps, en arrière-plan, la désacralisation au-delà de l'imagerie religieuse, de l'art d'une manière générale. Vous voyez, c'est là où je pense que ça se joue, personnellement. Hein,
oui.
Est-ce que je dis,
je suis tout à fait d'accord. Justement, cette superposition d'images, je crois que c'est aussi une manière ironique, bien sûr, de Flaubert, de commenter un peu cet art chrétien.
Ça, des sacralisations, c'est une imagerie.
Voilà.
C'est devenu une imagerie.
Voilà, exactement. Quand j'ai parlé d'imaginaire collectif, j'ai pensé, en fait, plutôt à une réception par une communauté, comme c'était en fait le cas au Moyen-Âge, quand les légendes étaient lues pendant la messe.
Oui, je suis d'accord avec vous. Ce que vous avez dit de Liao, c'est tout à fait juste.
Oui.
Hein. Ce que vous dites de Heather aussi, qui est important, est tout à fait juste. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais l'effet de cette réception collective, sous forme de lecture ensemble, de cérémonie collective, était d'avoir des effets sur chacun des membres de cette collectivité.
Oui, tout à fait.
C'est là où il faut le rappeler.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et ce qui me semble intéressant, c'est que Flaubert, il met toujours en scène des personnes dans cette expérience singulière, c'est-à-dire Emma, Félicité, on pourrait aussi citer en fait la légende de Saint-Julien l'Hospitalier, ou la vision de Jules, la mère de Julien a une vision, le père de Julien a une vision, Julien lui-même a une vision. Donc il y a toujours en fait cette expérience singulière.
Parce que nous sommes à un monde, dans un autre moment, le moment moderne, où toute expérience devient une expérience individuelle.
Tout à fait, tout à fait. Et je crois que ça illustre un peu ce que Hugo a montré avec son chapitre « Se situera cela ». C'est justement ce changement de paradigme où tout, en fait, devient visuel au niveau du texte. Tout à fait.
De massification de l'église,
c'est-à-dire
que la collectif entre, traverse de façon différente et moins aussi ravageuse des esprits, c'est la croyance en cliché. C'est même un consensus. Les gens s'entendent, faut pas l'oublier parce que chez Flaubert, c'est quand même l'ennemi en permanence. C'est tout ça qui le. Donc le cliché est là, même dans l'extraordinaire dispositif savant qu'il met en place pour repenser l'image, repenser le texte. Pour Maury, je crois que oui, il le connaissait dès le départ. C'est-à-dire que Maury, dans les années 40, pratiquement dans les années qui suivent, Flaubert a lu, et il en parle avec le prêtre-vin, je crois bien qu'il y a des mentions dans les premiers carnets connus. C'est un livre qui est à la maison, les parents de Flaubert le cadre de la famille. Donc il y a vraiment là une présence permanente depuis la première tentation de Saint-Antoine. Et une présence qui n'est pas seulement enfin, fonctionnelle, c'est-à-dire qui donne à Flaubert une idée très forte des processus que tu as relevé sur la légende et de des implications de la légende et de réimplications de la légende. C'est ça que je trouve qui va changer ce. Sur l'écriture des journaux, beaucoup. Et d'ailleurs, avec une biographie, on peut pas mal de choses.
Oui, c'était juste une bibliothèque. Oui, bien sûr, bien sûr.
Beaucoup de choses ont été déjà travaillées là-dessus.
Non, non, justement. Merci. La bibliographie, c'est juste un extrait pour aujourd'hui.
Il y a une question que vous ne posez pas complètement à l'intérieur de. Enfin, je ne sais pas si je suis allé à l'intérieur de ça. Mais. Qui est. La question de la croyance. C'est-à-dire que Flaubert travaille sur une énergie qui fait que le lecteur peut entrer, c'est un peu ce que disait Jeanne tout à l'heure, dans cette sorte de superstition de l'image, et qui fait, en étant certain que le fond de toute religion, de toute croyance, est le même. Que celle qui anime à la fois le créateur et le lecteur. Ce feu, cette énergie-là, passe, traverse à la fois toutes les cultures, toutes les situations, et se retrouve dans quelque chose qui est ni de l'intelligence ni de la bêtise, qui est de la foi, qui est une croyance. Je crois que la question de la légende est le point de bascule entre l'image et l'écriture. De ce hiéroglyphe, quoi qu'il y ait l'ensemble des deux, est absolument traversé par cette question de la croyance. Y croire. aussi puissant que ce qui, ce qui mobilise les foules quand Jésus parle, ce qui probablement un charismatique socialiste parle, ça, un mélange, ou quand un grand nombre d'art s'impose. Et ce caractère absolument superstitieux de ce rapport à, au miracle, quoi, de sens, mais toujours à la fois bêtise et auteur spirituel de sens, qui fait la question. Et du coup, on a démontré que la chance de Samuel Hospitalier est un récit en partie double. C'est-à-dire qu'il y a ce site qui fait du beau, c'est ça le premier effet. Qu'on voit tout à la fois du point de vue de la danse, à la fois du, disons, du délire psychiatrique, quoi, et du point de vue de la transcendance, du point de vue de la légende d'or. Que chaque chose peut être ambivalente dans tout ce qui arrive. Mais je pense que c'est un peu. Un récit en partie du dossier du point de vue des régimes de la croyance. Et que, à travers votre question, les gens. Vous avez la possibilité de suivre cette logique du récit en partie du d'image et figure, certainement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez évoqué dans votre texte, mais il n'y a pas plus. Que le final de la légende de Saint-Julien, voilà la légende, l'histoire de Saint-Julien, telle à peu près, si c'est à peu près, bien
oui.
Compte. Voilà. Alors, je pense que c'est un beau sujet, mais je pense que la question de l'ambivalence presque permanente, des concepts qui sont traversés par ce sujet, est une des caractéristiques
du sujet. Oui, merci. Je suis tout à fait d'accord. Alors, concernant la bibliographie, j'ai une vingtaine, trentaine de pages de bibliographie dans mon livre « La légende en forme d'art ». En fait, ici, j'ai essayé surtout de vous donner des références allemandes parce que j'ai pensé aux étudiants qui sont présents pour que vous puissiez, en fait, un aperçu de la recherche allemande. Sur ce que vous avez dit concernant la bêtise, je suis tout à fait d'accord. Je dirais, donc, je trouve qu'on voit très bien avec cette image d'Épinal, c'est un médium des masses, tout à fait. C'est un médium de masse, c'est la banalisation d'une certaine imagerie de l'iconographie chrétienne. En même temps, je trouve que c'est aussi une ironie. Flaubert ironise également cette image, justement, parce qu'il y a... Je trouve que si on regarde cet oiseau, c'est loulou. Enfin, on a...
Je trouve qu'il y a un visage anthropomorphique de...
Oui. Est-ce que vous avez dit que la directrice du musée est très vraie quand on regarde plusieurs images d'Épinal? Les mêmes, on s'aperçoit que ce ne sont pas les mêmes couleurs. Une fois c'est jaune, une fois c'est rouge,
voilà.
Une fois elles étaient très. Les couleurs pouvaient en être différentes.
Donc, puisqu'on parle. Normalement, on parle de la bêtise, de félicité, mais je crois justement, si on voit cette image d'Épinal, on se demande est-ce qu'elle est vraiment tellement bête? Parce qu'on voit que. Pourquoi pas? Enfin, il y a quand même une certaine ressemblance, comme il est dit dans notre texte. Et.
À part justement ce visage.
Pourquoi avoir coloré une colombe?
Ce visage qui. Qui manifeste justement là la tension. Là, c'est pas un perroquet justement.
Oui.
C'est. Alors, je sais pas si on peut tirer quelque chose.
Non, c'est pas une colombe.
Il lui manque la parole.
C'est pas une colombe.
Je trouve que c'est très intelligent de dire. Non, je dirais c'est très. En fait, c'est intelligent de dire voilà pourquoi un ancêtre de loulou. Parce que lui, là, il peut quand même parler. Pourquoi cette colombe en tant que symbole pour le Saint-Esprit? Et donc, il y a ce moment de bêtise, de félicité, je crois, qui est un peu aussi changé en trouvant cette image d'Épinal. Puis, par rapport à la croyance de Flaubert, enfin, il se compare lui-même à saint Polycarpe. Donc, il y a toujours cette ambiguïté. Enfin, je trouve que dans son discours, on trouve toujours cette ironisation, toujours cette...
D'un côté. C'est une photo de l'ironisation. C'est-à-dire que l'activité de cette ironie avec le verre, ça a l'air d'être là partout. Le problème, c'est que c'est tellement partout
oui.
Que ça échappe à l'idée logique fondamentale de l'ironie qui est quelque part un précaré, vous êtes à l'abri, vous avez des valeurs sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour flaguer. n'y a pas Shakespeare. Il n'y a oui. pas cet espace. Et du même coup, l'ironie se oui. On est dans quelque chose d'autre. C'est-à-dire que la superstition par laquelle on peut tomber en croyance devant une page de l'image, Flaubert la ressent comme quelque chose à quoi il lui-même peut succomber. Pour de vrai. Et à quoi de toute façon il a succombé quand il était enfant, qu'il regardait des gravures, des livres de contes, dont il se fait la racine même de son aspiration et de son histoire. Donc vous voyez, il y a quelque chose d'extraordinaire, de l'enfance apportée dans la adulte à l'écriture, c'est pas. Bien sûr que c'est de la superstition et de la bêtise, mais c'est toute la puissante chose de l'aspiration aussi.
Mais ça va être très rapide.
Voilà. Non, oui, non, mais
c'est pour aller dans ton sens, c'est que prenons le moment de la fosse à Denis. En réalité, il se passe quelque chose de tout à fait étonnant et qui l'intéressait dans l'équipe C, c'est que ce que développera Sartre dans la nausée avec les moments parfaits de Annie, il s'agit au fond presque d'un tableau vivant. Être le personnage d'un tableau vivant, c'est-à-dire dans ce moment de perfection absolue qui est rendu par l'image. L'image est un moment où tout est parfait, parce que tout est comme cela doit être. Et donc, ça a rapport au tableau vivant. Ça, je pourrais le développer un jour sur les moments parfaits, justement, être dans le tableau. Faire tableau.
Loïc voulait dire quelque chose très très rapidement, parce qu'il faut qu'on fasse une pause. Et... je dirais tout à
comme il est arrivé en retard. Hein,
Marcel en extase devant Carrel, une image comme ça, et on a les deux, on a absolument les deux avis partagés. Et la deuxième chose, c'est que cette bêtise que vous avez montrée sur cette. Effectivement, les images épinales, elles sont toutes de couleur, en principe les colons sous, ou alors elles sont immaculées, mais sinon elles sont dorées, etc. Et il me semble que ce que fait Félicité, c'est ce que décrivent les mythographes allemands à propos justement de l'image elle-même de la colombe par rapport à l'Esprit Saint. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a effectivement dans cette bêtise-là fondamentalement la même chose qui se rejoue, à savoir qu'il y a toute une Strauss par exemple revient là-dessus sur l'esprit planant sur les eaux, etc. Et montre comment le langage a forcé entre guillemets les gens à penser le Saint-Esprit comme une colombe. Et c'est finalement ce que fait exactement Félicité lorsqu'elle se dit mais le Seigneur devait avoir une bête qui parlait, et donc pareil, elle est forcée par ses propres.
Alors, on va.